Le premier de ces jours, auquel la neige, image des puissances qui pouvaient me priver de voir Gilberte donner la tristesse d'un jour de séparation, et jusqu'à l'aspect d'un jour de départ, parce qu'il changeait la figure et empêchait presque l'usage du lieu habituel de nos seules entrevues, maintenant changé, tout enveloppé de housse, ce jour fit pourtant faire un progrès à mon amour, car il fut comme un premier chagrin qu'elle eut partagé avec moi. Il n'y avait que nous deux de notre bande, et être ainsi le seul qui fût avec elle, c'était non seulement comme un commencement d'intimité, mais aussi, de sa part, comme si elle ne fût venue rien que pour moi par un temps pareil, cela me semblait aussi touchant que si, un de ces jours où elle était invitée à une matinée, elle y avait renoncé pour venir me retrouver aux Champs-Élysées. Je prenais plus de confiance en la vitalité et en l'avenir de notre amitié, qui restait vivace au milieu de l'engourdissement, de la solitude et de la ruine des choses environnantes. Et tandis qu'elle me mettait des boules de neige dans le cou, je souriais avec attendrissement à ce qui me semblait à la fois une prédilection qu'elle me marquait, en me tolérant comme compagnon de voyage dans ce pays hivernal et nouveau, et une sorte de fidélité qu'elle me gardait au milieu du malheur. Bientôt, l'une après l'autre, comme des moineaux hésitants, ses amies arrivèrent toutes noires sur la neige. Nous commençâmes à jouer, et comme ce jour si tristement commencé devait finir dans la joie, comme je m'approchais, avant de jouer au bar, de l'ami à la voix brève que j'avais entendu le premier jour crier le nom de Gilberte, elle me dit « Non, non, on sait bien que vous aimez mieux être dans le camp de Gilberte. D'ailleurs, vous voyez, elle vous fait signe. » Elle m'appelait en effet pour que je vinsse sur la pelouse de neige dans son camp, dont le soleil, en lui donnant les reflets roses, l'usure métallique des brocarts anciens, faisait un camp du drap d'or. Ce jour que j'avais tant redouté fut au contraire un des seuls où je ne fus pas trop malheureux. Car moi, qui ne pensais plus qu'à ne jamais rester un jour sans voir Gilberte, au point qu'une fois ma grand-mère n'étant pas rentrée pour l'heure du dîner, je ne pus m'empêcher de me dire tout de suite que si elle avait été écrasée par une voiture, je ne pourrais pas aller de quelque temps aux Champs-Élysées. On n'aime plus personne dès qu'on aime. Pourtant, ces moments où j'étais auprès d'elle, et que depuis la veille j'avais si impatiemment attendu, pour lesquels j'avais tremblé, auxquels j'aurais sacrifié tout le reste, n'étaient nullement des moments heureux, et je le savais bien, car c'étaient les seuls moments de ma vie sur lesquels je concentrasse une attention méticuleuse, acharnée, et elle ne découvrait pas en eux un atome de plaisir. Tout le temps que j'étais loin de Gilberte, j'avais besoin de la voir, parce que cherchant sans cesse à me représenter son image, je finissais par ne plus y réussir, et par ne plus savoir exactement à quoi correspondait mon amour. Puis elle ne m'avait encore jamais dit qu'elle m'aimait. Bien au contraire, elle avait souvent prétendu qu'elle avait des amis qu'elle me préférait, que j'étais un bon camarade avec qui elle jouait volontiers, quoique trop distrait, pas assez au jeu. Enfin, elle m'avait donné souvent des marques apparentes de froideur qui auraient pu ébranler ma croyance que j'étais pour elle un être différent des autres, si cette croyance avait pris sa source dans un amour que Gilberte aurait eu pour moi, et non pas, comme cela était, dans l'amour que j'avais pour elle. Ce qui la rendait autrement résistante, puisque cela la faisait dépendre de la manière même dont j'étais obligé par une nécessité intérieure de penser à Gilberte. Mais les sentiments que je ressentais pour elle, moi-même, je ne les lui avais pas encore déclarés. Certes, à toutes les pages de mes cahiers, j'écrivais indéfiniment son nom et son adresse, mais à la vue de ces vagues lignes que je traçais sans qu'elle pensât pour cela à moi, qui lui faisaient prendre autour de moi tant de place apparente sans qu'elle fût mêlée davantage à ma vie, je me sentais découragé, parce qu'elle ne me parlait pas de Gilbert, qui ne les verrait même pas, mais de mon propre désir, qu'elle semblait me montrer comme quelque chose de purement personnel, d'irréel, de fastidieux et d'impuissant. Le plus pressé était que nous nous vissions, Gilberte et moi, et que nous puissions nous faire l'aveu réciproque de notre amour, qui, jusque-là, n'aurait pour ainsi dire pas commencé. Sans doute les diverses raisons qui me rendaient si impatient de la voir auraient été moins impérieuses pour un homme mûr. Plus tard, il arrive que, devenus habiles dans la culture de nos plaisirs, nous nous contentions de celui que nous avons à penser à une femme, comme je pensais à Gilberte, sans être inquiets de savoir si cette image correspond à la réalité, et aussi de celui de l'aimer sans avoir besoin d'être certain qu'elle nous aime. Ou encore que nous renoncions au plaisir de lui avouer notre inclination pour elle, afin d'entretenir plus vivace l'inclination qu'elle a pour nous. Imitant ces jardiniers japonais qui, pour obtenir une plus belle fleur, en sacrifient plusieurs autres. Mais à l'époque où j'aimais Gilberte, je croyais encore que l'amour existait réellement, en dehors de nous, que, en permettant tout au plus que nous écartions les obstacles, il offrait ses bonheurs dans un ordre auquel on n'était pas libre de rien changer. Il me semblait que si j'avais de mon chef substitué à la douceur de l'aveu la simulation de l'indifférence, je ne me serais pas seulement privé d'une des joies dont j'avais le plus rêvé, mais que je me serais fabriqué à ma guise un amour factice et sans valeur, sans communication avec le vrai, dont j'aurais renoncé à suivre les chemins mystérieux et préexistants. Mais quand j'arrivais aux Champs-Élysées et que d'abord j'allais pouvoir confronter mon amour pour lui faire subir les rectifications nécessaires à sa cause vivante, indépendante de moi, dès que j'étais en présence de cette Gilberte Swann sur la vue de laquelle j'avais compté pour rafraîchir les images que ma mémoire fatiguée ne retrouvait plus, de cette Gilberte Swann avec qui j'avais joué hier, et que venait de me faire saluer et reconnaître un instinct aveugle, comme celui qui dans la marche nous met un pied devant l'autre avant que nous ayons eu le temps de penser, aussitôt tout se passait comme si elle et la fillette qui était l'objet de mes rêves avaient été deux êtres différents. Par exemple, si depuis la veille je portais dans ma mémoire deux yeux de feu dans des joues pleines et brillantes, la figure de Gilberte m'offrait maintenant avec insistance quelque chose que précisément je ne m'étais pas rappelé, un certain effilement aigu du nez qui, s'associant instantanément à d'autres traits, prenait l'importance de ces caractères qui, en histoire naturelle, définissent une espèce, et la transmuait en une fillette du genre de celle à museau pointu. Tandis que je m'apprêtais à profiter de cet instant désiré pour me livrer sur l'image de Gilberte que j'avais préparée avant de venir et que je ne retrouvais plus dans ma tête, à la mise au point qui me permettrait, dans les longues heures où j'étais seul, d'être sûr que c'était bien elle et que je me rappelais, que c'était bien mon amour pour elle que j'accroissais peu à peu comme un ouvrage qu'on compose, elle me passait une balle. Et comme le philosophe idéaliste, dont le corps tient compte du monde extérieur à la réalité duquel son intelligence ne croit pas, le même moi qui m'avait fait la saluer avant que je l'eusse identifié, s'empressait de me faire saisir la balle qu'elle me tendait, comme si elle était une camarade avec qui j'étais venu jouer, et non une âme sœur que j'étais venu rejoindre. Me faisait lui tenir par bienséance jusqu'à l'heure où elle s'en allait, mille propos aimables et insignifiants, et m'empêcher ainsi, ou de garder le silence pendant lequel j'aurais pu enfin remettre la main sur l'image urgente et égarée, ou de lui dire les paroles qui pouvaient faire à notre amour les progrès décisifs sur lesquels j'étais chaque fois obligé de ne plus compter que pour l'après-midi suivante. Il en faisait pourtant quelques-uns. Un jour que nous étions allés avec Gilberte jusqu'à la baraque de notre marchande, qui était particulièrement aimable pour nous, car c'était chez elle que M. Swann faisait acheter son pain d'épices, et par hygiène, Il en consommait beaucoup, souffrant d'un eczéma ethnique et de la constipation des prophètes. Gilberte me montrait en riant de petits garçons qui étaient comme le petit coloriste et le petit naturaliste des livres d'enfants. Car l'un ne voulait pas d'un sucre d'orge rouge parce qu'il préférait le violet, et l'autre, les larmes aux yeux, refusait une prune que voulait lui acheter sa bonne. Parce que, finit-il par dire d'une voix passionnée, « J'aime mieux l'autre prune, parce qu'elle a un verre. » J'achetais 2 billes d'un sou, je regardais avec admiration, lumineuse et captive dans une sébile isolée, les billes d'agate qui me semblaient précieuses parce qu'elles étaient souriantes et blondes comme des jeunes filles et parce qu'elles coûtaient 50 centimes pièce. Gilberte, à qui on donnait beaucoup plus d'argent qu'à moi, me demanda laquelle je trouvais la plus belle. Elles avaient la transparence et le fondu de la vie. Je n'aurais voulu lui en faire sacrifier aucune. J'aurais aimé qu'elle pût les acheter, les délivrer toutes. Pourtant, je lui en désignai une qui avait la couleur de ses yeux. Gilberte la prit, chercha son rayon doré, la caressa, paya sa rançon, mais aussitôt me remit sa captive en me disant « Tenez, elle est à vous, je vous la donne, gardez-la comme souvenir. » Une autre fois, toujours préoccupé du désir d'entendre la Berma dans une pièce classique, je lui avais demandé si elle ne possédait pas une brochure où Bergotte parlait de Racine et qui ne se trouvait plus dans le commerce. Elle m'avait prié de lui en rappeler le titre exact, et le soir je lui avais adressé un petit télégramme en écrivant sur l'enveloppe ce nom de Gilberte Swann que j'avais tant de fois tracé sur mes cahiers. Le lendemain, elle m'apporta dans un paquet noué de faveurs mauves et scellé de cire blanche la brochure qu'elle avait fait chercher. « Vous voyez que c'est bien ce que vous m'avez demandé, » me dit-elle, tirant de son manchon le télégramme que je lui avais envoyé. Mais dans l'adresse de ce pneumatique, qui hier encore n'était rien, n'était qu'un petit bleu que j'avais écrit, et qui, depuis qu'un télégraphiste l'avait remis au concierge de Gilberte et qu'un domestique l'avait porté jusqu'à sa chambre, était devenu, cette chose sans prix, un des petits bleus qu'elle avait reçus ce jour-là. J'eus peine à reconnaître les lignes vaines et solitaires de mon écriture sous les cercles imprimés qui avaient apposé la poste, sous les inscriptions qui avaient ajouté au crayon un des facteurs, signe de réalisation effective, caché du monde extérieur, violette ceinture symbolique de la vie, qui, pour la première fois, venait épouser, maintenir, relever, réjouir mon rêve. Et il y eut un jour aussi où elle me dit « Vous savez, vous pouvez m'appeler Gilberte. En tout cas, moi, je vous appellerai par votre nom de baptême. C'est trop gênant. » Pourtant, elle continua encore un moment à se contenter de me dire « vous », et comme je le lui faisais remarquer, elle sourit. Et composant, construisant une phrase, comme celle qui, dans les grammaires étrangères, n'ont d'autre but que de nous faire employer un mot nouveau, elle la termina par mon petit nom. Et me souvenant plus tard de ce que j'avais senti alors, j'y ai démêlé l'impression d'avoir été tenu un instant dans sa bouche, moi-même, nu, sans plus aucune des modalités sociales qui appartenaient aussi, soit à ses autres camarades, soit quand elle disait mon nom de famille à mes parents, et dont ses lèvres, en l'effort qu'elle faisait un peu comme son père pour articuler les mots qu'elle voulait mettre en valeur, eurent l'air de me dépouiller, de me dévêtir, comme de sa peau un fruit dont on ne peut avaler que la pulpe, tandis que son regard, se mettant au même degré nouveau d'intimité que prenait sa parole, m'atteignit aussi plus directement, non sans témoigner la conscience, le plaisir et jusque la gratitude qu'il en avait, en se faisant accompagner d'un sourire. Mais au moment même, je ne pouvais apprécier la valeur de ces plaisirs nouveaux. Ils n'étaient pas donnés par la fillette que j'aimais, ou moi qui l'aimais, mais par l'autre, par celle avec qui je jouais, à cet autre moi qui ne possédait ni le souvenir de la vraie Gilberte, ni le cœur indisponible, qui seul aurait pu savoir le prix d'un bonheur, parce que seul il l'avait désiré. Même après être rentré à la maison, je ne l'ai goûté pas, car chaque jour, la nécessité qui me faisait espérer que le lendemain j'aurais la contemplation exacte, calme, heureuse de Gilberte, qu'elle m'avouerait enfin son amour, en m'expliquant pour quelle raison elle avait dû me le cacher jusqu'ici, cette même nécessité me forçait à tenir le passé pour rien, à ne jamais regarder que devant moi, à considérer les petits avantages qu'elle m'avait donnés, non pas en eux-mêmes, et comme s'ils se suffisaient, mais comme des échelons nouveaux où poser le pied, qui allaient me permettre de faire un pas de plus en avant et d'atteindre enfin le bonheur que je n'avais pas encore rencontré. Si elle me donnait parfois de ces marques d'amitié, elle me faisait aussi de la peine en ayant l'air de ne pas avoir de plaisir à me voir. Et cela arrivait souvent les jours mêmes sur lesquels j'avais le plus compté pour réaliser mes espérances. J'étais sûr que Gilberte viendrait aux Champs-Élysées et j'éprouvais une allégresse qui me paraissait seulement la vague anticipation d'un grand bonheur quand, en rentrant dès le matin au salon pour embrasser maman déjà toute prête, la tour de ses cheveux noirs entièrement construite et ses belles mains blanches et potelées sentant encore le savon, j'avais appris, en voyant une colonne de poussière se tenir debout toute seule au-dessus du piano et en entendant un orgue de Barbarie jouer sous la fenêtre en revenant de la revue, que l'hiver recevait jusqu'au soir la visite inopinée et radieuse d'une journée de printemps. Pendant que nous déjeunions, en ouvrant sa croisée, la dame d'en face avait fait décamper en un clin d'œil, d'à côté de ma chaise, rayant d'un seul bond toute la largeur de notre salle à manger, un rayon qui y avait commencé sa sieste et était déjà revenu la continuer l'instant d'après. Au collège, à la classe d'une heure, le soleil me faisait languir d'impatience et d'ennui, en laissant traîner une lueur dorée jusque sur mon pupitre, comme une invitation à la fête où je ne pourrais arriver avant 3 heures, jusqu'au moment où Françoise venait me chercher à la sortie, et où nous nous acheminions vers les Champs-Élysées par les rues décorées de lumière, encombrés par la foule, et où les balcons, décelés par le soleil et vaporeux, flottaient devant les maisons comme des nuages d'or. Hélas, aux Champs-Élysées, je ne trouvais pas Gilberte. Elle n'était pas encore arrivée. Immobile sur la pelouse, nourrie par le soleil invisible qui, çà et là, faisait flamboyer la pointe d'un brin d'herbe, et sur laquelle les pigeons qui s'y étaient posés avaient l'air de sculptures antiques que la pioche du jardinier a ramenées à la surface d'un sol auguste. Je restais les yeux fixés sur l'horizon. Je m'attendais à tout moment à voir apparaître l'image de Gilberte suivant son institutrice, derrière la statue qui semblait tendre l'enfant qu'elle portait et qui ruisselait de rayons à la bénédiction du soleil. La vieille lectrice des débats était assise sur son fauteuil, toujours à la même place. Elle interpellait un gardien à qui elle faisait un geste amical de la main en lui criant « Quel joli temps !» Et la préposée s'étant approchée d'elle pour percevoir le prix du fauteuil, elle faisait mille minauderies en mettant dans l'ouverture de son gant le ticket de 10 centimes comme si ça avait été un bouquet pour qui elle cherchait, par amabilité pour le donateur, la place la plus flatteuse possible. Quand elle l'avait trouvée, elle faisait exécuter une évolution circulaire à son cou, redressait son boa et plantait sur la chaisière, en lui montrant le bout de papier jaune qui dépassait sur son poignet, le beau sourire dont une femme, en indiquant son corsage à un jeune homme, lui dit « Vous reconnaissez vos roses ?» J'emmenai Françoise au-devant de Gilberte jusqu'à l'Arc de Triomphe. Nous ne la rencontrions pas, et je revenais vers la pelouse persuadé qu'elle ne viendrait plus, quand devant les chevaux de bois, la fillette à la voix brève se jetait sur moi. « Vite, vite, il y a déjà un quart d'heure que Gilberte est arrivée. Elle va repartir bientôt. On vous attend pour faire une partie de barre. » Pendant que je montais l'avenue des Champs-Élysées, Gilberte était venue par la rue Boissy-d'Anglas. Mademoiselle ayant profité du beau temps pour faire des courses pour elle, et Monsieur Swann allait venir chercher sa fille. Aussi c'était ma faute, je n'aurais pas dû m'éloigner de la pelouse, car on ne savait jamais sûrement par quel côté Gilberte viendrait, si ce serait plus ou moins tard. Et cette attente finissait par me rendre plus émouvant, non seulement les Champs-Élysées entiers, et toute la durée de l'après-midi, comme une immense étendue d'espace et de temps sur chacun des points et à chacun des moments de laquelle il était possible qu'apparût l'image de Gilberte, mais encore cette image elle-même. Parce que derrière cette image, je sentais se cacher la raison pour laquelle elle m'était décochée en plein cœur, à 4 heures au lieu de 2 heures et demie, surmontée d'un chapeau de visite à la place d'un béret de jeu, devant les ambassadeurs, et non entre les deux guignols. Je devinais quelqu'une de ses occupations, où je ne pouvais suivre Gilberte et qui la forçait à sortir ou à rester à la maison. J'étais en contact avec le mystère de sa vie inconnue. C'était ce mystère aussi qui me troublait quand, courant sur l'ordre de la fillette à la voix brève pour commencer tout de suite notre partie de bar, j'apercevais Gilberte, si vive et brusque avec nous, faisant une révérence à la dame au débat, qui lui disait « Quel beau soleil, on dirait du feu !» Lui parlant avec un sourire timide, d'un air compassé qui m'évoquait la jeune fille différente, que Gilberte devait être chez ses parents, avec les amis de ses parents, en visite, dans toute son autre existence, qui m'échappait. Mais de cette existence, personne ne me donnait l'impression, comme M. Swann, qui venait un peu après pour retrouver sa fille. C'est que lui et Mme Swann, parce que leur fille habitait chez eux, parce que ses études, ses jeux, ses amitiés dépendaient d'eux, contenaient pour moi, comme Gilberte, peut-être même plus que Gilberte, comme il convenait à des dieux tout-puissants sur elle, en qui il aurait eu sa source, un inconnu inaccessible, un charme douloureux. Tout ce qui les concernait était de ma part l'objet d'une préoccupation si constante que les jours où, comme cela, M. Swann, que j'avais vu si souvent autrefois sans qu'il excitât ma curiosité quand il était lié avec mes parents, venait chercher Gilberte aux Champs-Élysées, une fois calmés les battements de cœur qu'avait excité en moi l'apparition de son chapeau gris et de son manteau à pèlerine, son aspect m'impressionnait encore comme celui d'un personnage historique sur lequel nous venons de lire une série d'ouvrages et dont les moindres particularités nous passionnent. Ses relations avec le comte de Paris, qui, quand j'en entendais parler à Combray, me semblaient indifférentes, prenaient maintenant pour moi quelque chose de merveilleux, comme si personne d'autre n'eût jamais connu les Orléans. Elle le faisait se détacher vivement sur le fond vulgaire des promeneurs de différentes classes qui encombraient cette allée des Champs-Élysées, et au milieu desquels j'admirais qu'ils m'ont senti à figurer sans réclamer d'eux des gares spéciaux, qu'aucun d'ailleurs ne songeait à lui rendre, tant était profond l'incognito dont il était enveloppé. Il répondait poliment au salut des camarades de Gilberte, même au mien, quoiqu'il fût brouillé avec ma famille, mais sans avoir l'air de me connaître. Cela me rappela qu'il m'avait pourtant vu bien souvent à la campagne, souvenir que j'avais gardé, mais dans l'ombre, parce que depuis que j'avais revu Gilberte, pour moi Swann était surtout son père et non plus le Swann de Combray. Comme les idées sur lesquelles j'embranchais maintenant son nom étaient différentes des idées dans le réseau desquelles il était autrefois compris, et que je n'utilisais plus jamais quand j'avais à penser à lui, il était devenu un personnage nouveau, Je le rattachai pourtant par une ligne artificielle, secondaire et transversale, à notre invité d'autrefois, et comme rien n'avait plus pour moi de prix que dans la mesure où mon amour pouvait en profiter, ce fut avec un mouvement de honte et le regret de ne pouvoir les effacer que je retrouvai les années où, aux yeux de ce même Swann qui était en ce moment devant moi aux Champs-Élysées, et à qui, heureusement, Gilberte n'avait peut-être pas dit mon nom, je m'étais si souvent le soir rendu ridicule en envoyant demander à maman de monter dans ma chambre me dire bonsoir, pendant qu'elle prenait le café avec lui, mon père et mes grands-parents, à la table du jardin. Il disait à Gilberte qu'il lui permettait de faire une partie, qu'il pouvait attendre un quart d'heure, et s'asseyant, comme tout le monde, sur une chaise de fer, payait son ticket de cette main que Philippe VII avait si souvent retenue dans la sienne, tandis que nous commencions à jouer sur la pelouse, faisant envoler les pigeons dont les beaux corps irisés, qui ont la forme d'un cœur et sont comme les lilas du règne des oiseaux, venaient se réfugier comme en des lieux d'asile, tels sur le grand vase de pierre, à qui son bec, en y disparaissant, faisait faire le geste et assignait la destination d'offrir en abondance les fruits ou les graines qu'il avait l'air d'y picorer, tel autre sur le front de la statue qu'il semblait surmonter d'un de ces objets en émail desquels la polychromie varie dans certaines œuvres antiques la monotonie de la pierre, et d'un attribut qui, quand la déesse le porte, lui vaut une épithète particulière, et en fait, comme pour une mortelle un prénom différent, une divinité nouvelle. Un de ces jours de soleil qui n'avait pas réalisé mes espérances, je n'eus pas le courage de cacher ma déception à Gilberte. « J'avais justement beaucoup de choses à vous demander, lui dis-je. Je croyais que ce jour compterait beaucoup dans notre amitié. Et aussitôt arrivé, vous allez partir. » Tâchez de venir demain de bonne heure, que je puisse enfin vous parler. » Sa figure resplendit, et ce fut en sautant de joie qu'elle me répondit. « Demain, comptez-y, mon bel ami. Mais je ne viendrai pas. J'ai un grand goûter. Après-demain non plus, je vais chez une amie pour voir de ses fenêtres l'arrivée du roi Théodose. Ce sera superbe. » Et le lendemain encore, à Michel Strogoff. Et puis après cela va être bientôt Noël et les vacances du jour de l'an. Peut-être on va m'emmener dans le midi, ce que ce serait chic, quoique cela me fera manquer un arbre de Noël. En tout cas, si je reste à Paris, je ne viendrai pas ici, car j'irai faire des visites avec maman. Adieu, voilà papa qui m'appelle. Je revins avec Françoise par les rues qui étaient encore pavoisées de soleil, comme au soir d'une fête qui est finie. Je ne pouvais pas traîner mes jambes. « Ça n'est pas étonnant, » dit Françoise. « Ce n'est pas un temps de saison, il fait trop chaud. Hélas, mon Dieu, de partout, il doit y avoir bien des pauvres malades. C'est à croire que là-haut aussi, tous des traques. » Je me redisais, en étouffant mes sanglots, les mots où Gilberte avait laissé éclater sa joie de ne pas venir de longtemps aux Champs-Élysées. Mais déjà le charme dont par son simple fonctionnement se remplissait mon esprit dès qu'il songeait à elle, la position particulière, unique, fut-elle affligeante, où me plaçait inévitablement par rapport à Gilberte la contrainte interne d'un pli mental, avait commencé à ajouter, même à cette marque d'indifférence, quelque chose de romanesque, et au milieu de mes larmes se formait un sourire qui n'était que l'ébauche timide d'un baiser. Et quand vint l'heure du courrier, je me dis ce soir-là, comme tous les soirs, je vais recevoir une lettre de Gilberte. Elle va me dire enfin qu'elle n'a jamais cessé de m'aimer, et m'expliquera la raison mystérieuse pour laquelle elle a été forcée de me le cacher jusqu'ici, de faire semblant de pouvoir être heureuse sans me voir, la raison pour laquelle elle a pris l'apparence de la Gilberte simple camarade. Tous les soirs, je me plaisais à imaginer cette lettre. Je croyais la lire, je m'en récitais chaque phrase. Tout d'un coup, je m'arrêtais effrayé. Je comprenais que si je devais recevoir une lettre de Gilberte, ce ne pourrait pas en tout cas être celle-là, puisque c'était moi qui venais de la composer. Et dès lors, je m'efforçais de détourner ma pensée des mots que j'aurais aimé qu'elle m'écrivît, par peur, en les énonçant, d'exclure justement ceux-là, les plus chers, les plus désirés, du champ des réalisations possibles. Même si par une invraisemblable coïncidence c'eût été justement la lettre que j'avais inventée que de son côté m'eût adressée Gilberte. Y reconnaissant mon œuvre, je n'eusse pas eu l'impression de recevoir quelque chose qui ne vint pas de moi, quelque chose de réel, de nouveau, un bonheur extérieur à mon esprit, indépendant de ma volonté, vraiment donné par l'amour. En attendant, je relisais une page que ne m'avait pas écrite Gilberte, mais qui du moins me venait d'elle, cette page de Bergotte sur la beauté des vieux mythes dont s'est inspirée Racine et que, à côté de l'habit d'Agathe, je gardais toujours auprès de moi. J'étais attendri par la bonté de mon ami qui me l'avait fait rechercher, et comme chacun a besoin de trouver des raisons à sa passion jusqu'à être heureux de reconnaître dans l'être qu'il aime des qualités que la littérature ou la conversation lui ont appris être de celles qui sont dignes d'exciter l'amour, jusqu'à les assimiler par imitation et en faire des raisons nouvelles de son amour, ces qualités fussent-elles les plus opposées à celles que cet amour eût recherchées tant qu'il était spontané, comme Swann autrefois le caractère esthétique de la beauté d'Odette, moi qui avais d'abord aimé Gilberte décombrée à cause de tout l'inconnu de sa vie, dans lequel j'aurais voulu me précipiter, m'incarner, en délaissant la mienne qui ne m'était plus rien, je pensais maintenant, comme à un inestimable avantage, que de cette mienne vie trop connue, dédaignée, Gilberte pourrait devenir un jour l'humble servante, la commode et confortable collaboratrice, qui le soir, m'aidant dans mes travaux, collationnerait pour moi des brochures. Quant à Bergotte, ce vieillard infiniment sage et presque divin, à cause de qui j'avais d'abord aimé Gilberte, avant même de l'avoir vue, maintenant c'était surtout à cause de Gilberte que je l'aimais. Avec autant de plaisir que les pages qu'il avait écrites sur Racine, je regardais le papier fermé de grand cachet de cire blanc et noué d'un flot de rubans mauves dans lequel elle me les avait apportés. Je baisais l'habit d'Agathe qui était la meilleure part du cœur de mon ami, la part qui n'était pas frivole mais fidèle, et qui, bien que parée du charme mystérieux de la vie de Gilberte, demeurait près de moi, habité ma chambre, couché dans mon lit. Mais la beauté de cette pierre et la beauté aussi de ces pages de Bergotte que j'étais heureux d'associer à l'idée de mon amour pour Gilberte, comme si, dans les moments où celui-ci ne m'apparaissait plus que comme un néant, elle lui donnait une sorte de consistance, je m'apercevais qu'elles étaient antérieures à cet amour, qu'elles ne lui ressemblaient pas, que leurs éléments avaient été fixés par le talent ou par les lois minéralogiques avant que Gilberte ne me connût, que rien dans le livre ni dans la pierre n'eût été autre si Gilberte ne m'avait pas aimé, et que rien par conséquent ne m'autorisait à lire en eux un message de bonheur. Et tandis que mon amour, attendant sans cesse du lendemain l'aveu de celui de Gilberte, annulait, défaisait chaque soir le travail mal fait de la journée, dans l'ombre de moi-même, une ouvrière inconnue ne laissait pas au rebut les fils arrachés, et les disposait, sans souci de me plaire et de travailler à mon bonheur, dans un ordre différent qu'elle donnait à tous ses ouvrages. Ne portant aucun intérêt particulier à mon amour, ne commençant pas par décider que j'étais aimé, elle recueillait les actions de Gilbert qui m'avaient semblé inexplicables et ses fautes que j'avais excusées, alors les unes et les autres prenaient un sens. Il semblait dire cet ordre nouveau qu'en voyant Gilbert, au lieu qu'elle vint aux Champs-Élysées, aller à une matinée, faire des courses avec son institutrice et se préparer à une absence pour les vacances du jour de l'an, j'avais tort de penser, de me dire, c'est qu'elle est frivole ou docile, car elle eût cessé d'être l'un ou l'autre si elle m'avait aimé. Et si elle avait été forcée d'obéir, c'eût été avec le même désespoir que j'avais les jours où je ne la voyais pas. Il disait encore cet ordre nouveau que je devais pourtant savoir ce que c'était qu'aimer puisque j'aimais Gilberte. Il me faisait remarquer le souci perpétuel que j'avais de me faire valoir à ses yeux, à cause duquel j'essayais de persuader à ma mère d'acheter à Françoise un caoutchouc et un chapeau avec un plumet bleu, ou plutôt de ne plus m'envoyer aux Champs-Élysées avec cette bonne dont je rougissais, à quoi ma mère répondait que j'étais injuste pour Françoise, que c'était une brave femme qui nous était dévouée. Et aussi ce besoin unique de voir Gilberte qui faisait que des mois d'avance, je ne pensais qu'à tâcher d'apprendre à quelle époque elle quitterait Paris et où elle irait, trouvant le pays le plus agréable un lieu d'exil si elle ne devait pas y être, et ne désirant que rester toujours à Paris tant que je pourrais la voir aux Champs-Élysées. Et il n'avait pas de peine à me montrer que ce souci-là, ni ce besoin, je ne les trouverais sous les actions de Gilberte. Elle, au contraire, appréciait son institutrice, sans s'inquiéter de ce que j'en pensais. Elle trouvait naturel de ne pas venir aux Champs-Élysées si c'était pour aller faire des emplettes avec mademoiselle, agréable si c'était pour sortir avec sa mère. Et à supposer même qu'elle m'eût permis d'aller passer les vacances au même endroit qu'elle, du moins pour choisir cet endroit, elle s'occupait du désir de ses parents, de mille amusements dont on lui avait parlé, et nullement que ce fût celui où ma famille avait l'intention de m'envoyer. Quand elle m'assurait parfois qu'elle m'aimait moins qu'un de ses amis, moins qu'elle ne m'aimait la veille, parce que je lui avais fait perdre sa partie par une négligence, je lui demandais ce qu'il fallait faire pour qu'elle recommençât à m'aimer autant, pour qu'elle m'aimât plus que les autres. Je voulais qu'elle me dît que c'était déjà fait. Je l'en suppliais comme si elle avait pu modifier son affection pour moi à son gré, au mien pour me faire plaisir, rien que par les mots qu'elle dirait, selon ma bonne ou ma mauvaise conduite. Ne savais-je donc pas que ce que j'éprouvais moi pour elle ne dépendait ni de ses actions ni de ma volonté? Il disait enfin l'ordre nouveau dessiné par l'ouvrier invisible que si nous pouvons désirer que les actions d'une personne qui nous a peinés jusqu'ici n'aient pas été sincères, il y a dans leur suite une clarté contre quoi notre désir ne peut rien, et à laquelle, plutôt qu'à lui, nous devons demander quelles seront ses actions de demain. Ces paroles nouvelles, mon amour les entendait. Elle le persuadait que le lendemain ne serait pas différent de ce qu'avaient été tous les autres jours, que le sentiment de Gilberte pour moi, trop ancien déjà pour pouvoir changer, c'était l'indifférence. Que dans mon amitié avec Gilberte, c'est moi seul qui aimais. C'est vrai, répondait mon amour, il n'y a plus rien à faire de cette amitié-là, elle ne changera pas. Alors dès le lendemain, ou attendant une fête s'il y en avait une prochaine, un anniversaire, le nouvel an peut-être, un de ces jours qui ne sont pas pareils aux autres, où le temps recommence sur de nouveaux frais, en rejetant l'héritage du passé, en n'acceptant pas le legs de ses tristesses, je demandais à Gilberte de renoncer à notre amitié ancienne et de jeter les bases d'une nouvelle amitié. J'avais toujours apporté de ma main un plan de Paris qui, parce qu'on pouvait y distinguer la rue où habitaient Monsieur et Madame Swann, me semblait contenir un trésor. Et par plaisir, par une sorte de fidélité chevaleresque aussi, à propos de n'importe quoi, je disais le nom de cette rue, si bien que mon père me demandait, n'étant pas comme ma mère et ma grand-mère au courant de mon amour, « Mais pourquoi parles-tu tout le temps de cette rue? Elle n'a rien d'extraordinaire, elle est très agréable à habiter parce qu'elle est à deux pas du bois, mais il y en a 10 autres dans le même cas. » Je m'arrangeai à tout propos à faire prononcer à mes parents le nom de Swann. Certes, je me le répétais mentalement sans cesse, mais j'avais besoin aussi d'entendre sa sonorité délicieuse et de me faire jouer cette musique dont la lecture muette ne me suffisait pas. Ce nom de Swann, d'ailleurs, que je connaissais depuis si longtemps, était maintenant pour moi, ainsi qu'il arrive à certains aphasiques à l'égard des mots les plus usuels, un nom nouveau. Il était toujours présent à ma pensée, et pourtant elle ne pouvait pas s'habituer à lui. Je le décomposais, je l'éplais, son orthographe était pour moi une surprise. Et en même temps que d'être familier, il avait cessé de me paraître innocent. Les joies que je prenais à l'entendre, je les croyais si coupables qu'il me semblait qu'on devinait ma pensée et qu'on changeait la conversation si je cherchais à l'y amener. Je me rabattais sur les sujets qui touchaient encore à Gilberte, je rabâchais sans fin les mêmes paroles, et j'avais beau savoir que ce n'étaient que des paroles prononcées loin d'elle, qu'elle n'entendait pas, des paroles sans vertu qui répétaient ce qui était, mais ne le pouvaient modifier. Pourtant, il me semblait qu'à force de manier, de brasser ainsi tout ce qui avoisinait Gilberte, j'en ferais peut-être sortir quelque chose d'heureux. Je redisais à mes parents que Gilberte aimait bien son institutrice, comme si cette proposition, énoncée pour la centième fois, allait avoir enfin pour effet de faire brusquement entrer Gilberte, venant à tout jamais vivre avec nous. Je reprenais l'éloge de la vieille dame qui lisait les débats. J'avais insinué à mes parents que c'était une ambassadrice, ou peut-être une altesse, et je continuais à célébrer sa beauté, sa magnificence, sa noblesse, jusqu'au jour où je dis que, d'après le nom qu'avait prononcé Gilberte, elle devait s'appeler Madame Blatin. « Oh, mais je vois ce que c'est !» s'écria ma mère, tandis que je me sentais rougir de honte. « À la garde ! À la garde ! Comme aurait dit ton pauvre grand-père. Et c'est elle que tu trouves belle. Mais elle est horrible, et elle l'a toujours été. C'est la veuve d'un huissier. Tu ne te rappelles pas, quand tu étais enfant, les manèges que je faisais pour l'éviter à la leçon de gymnastique, où, sans me connaître, elle voulait venir me parler sous prétexte de me dire que tu étais trop beau pour un garçon. Elle a toujours eu la rage de connaître du monde. Et il faut bien qu'elle soit une espèce de folle, comme j'ai toujours pensé, si elle connaît vraiment Madame Swann. Car si elle était d'un milieu fort commun, au moins il n'y a jamais rien eu que je sache à dire sur elle. Mais il fallait toujours qu'elle se fasse des relations. Elle est horrible, affreusement vulgaire, et avec cela faiseuse d'embarras. Quant à Swann, pour tâcher de lui ressembler, je passais tout mon temps à table à me tirer sur le nez et à me frotter les yeux. Mon père disait « Cet enfant est idiot, il deviendra affreux ». J'aurais surtout voulu être aussi chauve que Swann. Il me semblait un être si extraordinaire que je trouvais merveilleux que des personnes que je fréquentais le connussent aussi, et que dans les hasards d'une journée quelconque, on pût être amené à le rencontrer. Et une fois, ma mère, en train de nous raconter, comme chaque soir à dîner, les courses qu'elle avait faites dans l'après-midi, rien qu'en disant « À ce propos, devinez qui j'ai rencontré aux trois quartiers ?» au rayon des parapluies, Swann fit éclore au milieu de son récit, fort aride pour moi, une fleur mystérieuse. Quelle mélancolique volupté d'apprendre que cet après-midi-là, profilant dans la foule sa forme surnaturelle, Swann avait été acheté un parapluie. Au milieu des événements grands et minimes, également indifférents, celui-là éveillait en moi ces vibrations particulières dont était perpétuellement ému mon amour pour Gilberte. Mon père disait que je ne m'intéressais à rien parce que je n'écoutais pas quand on parlait des conséquences politiques que pouvait avoir la visite du roi Théodose en ce moment l'hôte de la France, et prétendait-on son allié. Mais combien, en revanche, j'avais envie de savoir si Swann avait son manteau à pèlerine. « Est-ce que vous vous êtes dit bonjour ? » demandai-je. « Mais naturellement, répondit ma mère, qui avait toujours l'air de craindre que si elle eût avoué que nous étions en froid avec Swann, on eût cherché à les réconcilier, plus qu'elle ne souhaitait, à cause de Madame Swann, qu'elle ne voulait pas connaître. C'est lui qui est venu me saluer, je ne le voyais pas. Mais alors vous n'êtes pas brouillé ? Brouillé ? Mais pourquoi veux-tu que nous soyons brouillés ? Répondit-elle vivement, comme si j'avais attenté à la fiction de ses bons rapports avec Swann, et essayé de travailler à un rapprochement. Il pourrait en vouloir de ne plus l'inviter. On n'est pas obligé d'inviter tout le monde. Est-ce qu'il m'invite ? Je ne connais pas sa femme. Mais il venait bien à Combray. Eh bien oui, il venait à Combray. Et puis à Paris, il a autre chose à faire, et moi aussi. Mais je t'assure que nous n'avions pas du tout l'air de deux personnes brouillées. Nous sommes restés un moment ensemble parce qu'on ne lui apportait pas son paquet. Il m'a demandé de tes nouvelles. Il m'a dit que tu jouais avec sa fille, ajouta ma mère, m'émerveillant du prodige que j'existasse dans l'esprit de Swann, bien plus que ce fut d'une façon assez complète pour que, quand je tremblais d'amour devant lui aux Champs-Élysées, il sut mon nom, qui était ma mère, et put amalgamer autour de ma qualité de camarade de sa fille quelques renseignements sur mes grands-parents, leur famille, l'endroit que nous habitions, certaines particularités de notre vie d'autrefois, peut-être même inconnues de moi. Mais ma mère ne paraissait pas avoir trouvé un charme particulier à ce rayon des trois quartiers où elle avait représenté pour Swann, au moment où il l'avait vue, une personne définie avec qui il avait des souvenirs communs, qui avait motivé chez lui le mouvement de s'approcher d'elle, le geste de la saluer. Ni elle d'ailleurs, ni mon père, ne semblaient non plus trouver à parler des grands-parents de Swann, du titre d'agent de change honoraire, un plaisir qui passa tous les autres. Mon imagination avait isolé et consacré dans le Paris social une certaine famille, comme elle avait fait dans le Paris de Pierre pour une certaine maison, dont elle avait sculpté la porte cochère et rendu précieuses les fenêtres. Mais ces ornements, j'étais seul à les voir. De même que mon père et ma mère trouvaient la maison qu'habitait Swann pareille aux autres maisons construites en même temps dans le quartier du Bois, de même la famille de Swann leur semblait du même genre que beaucoup d'autres familles d'agents de change. Ils la jugeaient plus ou moins favorablement selon le degré où elle avait participé à des mérites communs au reste de l'univers, et ne lui trouvaient rien d'unique. Ce qu'au contraire ils y appréciaient, ils le rencontraient à un degré égal ou plus élevé ailleurs. Aussi, après avoir trouvé la maison bien située, il parlait d'une autre qui l'était mieux, mais qui n'avait rien à voir avec Gilberte, ou de financier d'un cran supérieur à son grand-père. Et s'ils avaient eu l'air un moment d'être du même avis que moi, c'était par un malentendu qui ne tardait pas à se dissiper. C'est que, pour percevoir dans tout ce qui entourait Gilberte, une qualité inconnue, analogue dans le monde des émotions à ce que peut être dans celui des couleurs l'infrarouge, mes parents étaient dépourvus de ce sens supplémentaire et momentané dont m'avait doté l'amour. Les jours où Gilberte m'avait annoncé qu'elle ne devait pas venir aux Champs-Élysées, je tâchais de faire des promenades qui me rapprochassent un peu d'elle. Parfois, j'emmenais Françoise en pèlerinage devant la maison qu'habitaient les Swann. Je lui faisais répéter sans fin ce que, par l'institutrice, elle avait appris relativement à Madame Swann. Il paraît qu'elle a bien confiance à des médailles. Jamais elle ne partira en voyage si elle a entendu la chouette, ou bien comme un tic-tac d'horloge dans le mur, ou si elle a vu un chat à minuit, ou si le bois d'un meuble... Il a craqué. Ah, c'est une personne très croyante. J'étais si amoureux de Gilberte que si sur le chemin j'apercevais leur vieux maître d'hôtel promenant un chien, l'émotion m'obligeait à m'arrêter. J'attachais sur ses favoris blancs des regards pleins de passion. Françoise me disait « Qu'est-ce que vous avez ?» Puis nous poursuivions notre route jusque devant leur porte cochère, où un concierge, différent de tout concierge et pénétré jusque dans les galons de sa livrée du même charme douloureux que j'avais ressenti dans le nom de Gilberte, avait l'air de savoir que j'étais de ceux à qui une indignité originelle interdirait toujours de pénétrer dans la vie mystérieuse qu'il était chargé de garder, et sur laquelle les fenêtres de l'entresol paraissaient conscientes d'être refermées, ressemblant beaucoup moins entre la noble retombée de leur rideau de mousseline à n'importe quelles autres fenêtres qu'au regard de Gilberte. D'autres fois, nous allions sur les boulevards, et je me postais à l'entrée de la rue du Faux. On m'avait dit qu'on pouvait souvent y voir passer Swann, se rendant chez son dentiste, et mon imagination différenciait tellement le père de Gilberte du reste de l'humanité, sa présence au milieu du monde réel y introduisait tant de merveilleux, que, avant même d'arriver à la Madeleine, j'étais ému à la pensée d'approcher d'une rue où pouvait se produire inopinément l'apparition surnaturelle. Mais le plus souvent, quand je ne devais pas voir Gilberte, comme j'avais appris que Madame Swann se promenait presque chaque jour dans l'allée des acacias autour du Grand Lac et dans l'allée de la Reine Marguerite, je dirigeais Françoise du côté du Bois de Boulogne. Il était pour moi comme ces jardins zoologiques où l'on voit rassembler des flores diverses et des paysages opposés, où après une colline on trouve une grotte, un pré, des rochers, une rivière, une fosse, une colline, un marais, mais où l'on sait qu'ils ne sont là que pour fournir aux ébats de l'hippopotame, des zèbres, des crocodiles, des lapins russes, des ours et du héron, un milieu approprié ou un cadre pittoresque. Lui, le bois, complexe aussi, réunissant des petits mondes divers et clos, faisant succéder quelques fermes plantées d'arbres rouges, de chênes d'Amérique comme une exploitation agricole dans la Virginie, à une sapinière au bord du lac, ou une futaie d'où surgit tout à coup dans sa souple fourrure, avec les beaux yeux d'une bête, quelques promeneuses rapides, il était le jardin des femmes, et comme l'allée des myrtes de l'Énéide, plantée pour elle d'arbres d'une seule essence, l'allée des acacias était fréquentée par les beautés célèbres. Comme de loin la culmination du rocher d'où elle se jette dans l'eau transporte de joie les enfants qui savent qu'ils vont voir l'otarie, bien avant d'arriver à l'allée des acacias, leur parfum qui, irradiant alentour, faisait sentir de loin l'approche et la singularité d'une puissante et molle individualité végétale, puis quand je me rapprochais, le fait aperçu de leur frondaison légère et mièvre, d'une élégance facile, d'une coupe coquette et d'un mince tissu, sur laquelle des centaines de fleurs s'étaient abattues comme des colonies ailées et vibratiles de parasites précieux, enfin jusqu'à leur nom féminin, désœuvré et doux, me faisait battre le cœur, mais d'un désir mondain, comme ces valses qui ne nous évoquent plus que le nom des belles invitées que l'huissier annonce à l'entrée d'un bal. On m'avait dit que je verrais dans l'allée certaines élégantes, que, bien qu'elles n'eussent pas toutes été épousées, l'on citait habituellement à côté de Madame Swann, mais le plus souvent sous leur nom de guerre. Leur nouveau nom, quand il y en avait un, n'était qu'une sorte d'incognito que ceux qui voulaient parler d'elle avaient soin de lever pour se faire comprendre. Pensant que le beau, dans l'ordre des élégances féminines, était régi par des lois occultes à la connaissance desquelles elles avaient été initiées et qu'elles avaient le pouvoir de le réaliser, J'acceptais d'avance comme une révélation l'apparition de leur toilette, de leur attelage, de 1000 détails, au sein desquels je mettais ma croyance, comme une âme intérieure qui donnait la cohésion d'un chef-d'œuvre à cet ensemble éphémère et mouvant. Mais c'est Madame Swann que je voulais voir, et j'attendais qu'elle passât émue comme si ça avait été Gilberte, dont les parents, imprégnés comme tous ceux qui l'entouraient de son charme, excitaient en moi autant d'amour qu'elle, même un trouble plus douloureux, parce que leur point de contact avec elle était cette partie intestine de sa vie qui m'était interdite. Et enfin, car je sus bientôt, comme on le verra, qu'il n'aimait pas que je jouasse avec elle, ce sentiment de vénération que nous vouons toujours à ceux qui exercent sans frein la puissance de nous faire du mal. J'assignai la première place à la simplicité dans l'ordre des mérites esthétiques et des grandeurs mondaines quand j'apercevais Madame Swann à pied dans une polonaise de drap, sur la tête un petit toquet agrémenté d'une aile de lophophore, un bouquet de violettes au corsage, pressé, traversant l'allée des acacias comme si ça avait été seulement le chemin le plus court pour entrer chez elle, et répondant d'un clin d'œil aux messieurs en voiture qui, reconnaissant de loin sa silhouette, la saluait et se disait que personne n'avait autant de chic. Mais au lieu de la simplicité, c'est le faste que je mettais au plus haut rang, si après que j'avais forcé Françoise qui n'en pouvait plus et disait que les jambes lui rentraient, à faire les 100 pas pendant 1 heure, je voyais enfin débouchant de l'allée qui vient de la porte Dauphine, image pour moi d'un prestige royal, une arrivée souveraine telle qu'aucune reine véritable n'a pu m'en donner l'impression dans la suite, parce que j'avais de leur pouvoir une notion moins vague et plus expérimentale. Emporté par le vol de 2 chevaux ardents, minces et contournés, comme on en voit dans les dessins de Constantin Guis, portant établi sur son siège un énorme cocher fourré comme un cosaque, à côté d'un petit groom rappelant le tigre de feu Beaudenord, je voyais, ou plutôt je sentais, imprimer sa forme dans mon cœur par une nette et épuisante blessure, une incomparable Victoria, à dessein un peu haute et laissant passer à travers son luxe dernier cri des allusions aux formes anciennes, au fond de laquelle reposait avec abandon Madame Swann, ses cheveux maintenant blonds avec une seule mèche grise, ceint d'un mince bandeau de fleurs, le plus souvent des violettes, d'où descendaient de longs voiles, à la main une ombrelle mauve, aux lèvres un sourire ambigu, où je ne voyais que la bienveillance d'une majesté, et où il y avait surtout la provocation de la cocotte, et qu'elle inclinait avec douceur sur les personnes qui la saluaient. Ce sourire, en réalité, disait aux uns, je me rappelle très bien, c'était esquille, et à d'autres, comme j'aurais aimé, ça a été la mauvaise chance. À d'autres, mais si vous voulez, je vais suivre encore un moment la file, et dès que je pourrai, je couperai. Quand passée des inconnus, elle laissait cependant autour de ses lèvres un sourire oisif, comme tourné vers l'attente ou le souvenir d'un ami, et qui faisait dire « comme elle est belle ». Et pour certains hommes seulement, elle avait un sourire aigre, contraint, timide et froid, et qui signifiait « oui, Ross, je sais que vous avez une langue de vipère, que vous ne pouvez pas vous tenir de parler. Est-ce que je m'occupe de vous ?» Moi. Coquelin passait en discourant au milieu d'amis qui l'écoutaient et faisait avec la main à des personnes en voiture un large bonjour de théâtre. Mais je ne pensais qu'à Madame Swann et je faisais semblant de ne pas l'avoir vue, car je savais qu'arrivée à la hauteur du tir au pigeon, elle dirait à son cocher de couper la file et de l'arrêter pour qu'elle pût descendre l'allée à pied. Et les jours où je me sentais le courage de passer à côté d'elle, j'entraînais Françoise dans cette direction. À un moment, en effet, c'est dans l'allée des piétons, marchant vers nous, que j'apercevais Madame Swann, laissant s'étaler derrière elle la longue traîne de sa robe mauve, vêtue, comme le peuple imagine les reines, d'étoffes et de riches atours que les autres femmes ne portaient pas, abaissant parfois son regard sur le manche de son ombrelle, faisant peu attention aux personnes qui passaient, comme si sa grande affaire et son but avaient été de prendre de l'exercice, sans penser qu'elle était vue et que toutes les têtes étaient tournées vers elle. Parfois pourtant, quand elle s'était retournée pour appeler son lévrier, elle jetait imperceptiblement un regard circulaire autour d'elle. Ce même qui ne la connaissait pas était averti par quelque chose de singulier et d'excessif, ou peut-être par une radiation télépathique comme celle qui déchaînait des applaudissements dans la foule ignorante au moment où la Berma était sublime, que ce devait être quelque personne connue. Il se demandait « Qui est-ce ?» interrogeait quelquefois un passant, ou se promettait de se rappeler la toilette comme un point de repère pour des amis plus instruits qui les renseigneraient aussitôt. D'autres promeneurs, s'arrêtant à demi, disaient « Vous savez qui c'est ? Madame Swann ?»« Cela ne vous dit rien. Odette de Crécy ?»« Odette de Crécy, mais je me disais aussi, ses yeux tristes, mais savez-vous qu'elle ne doit plus être de la première jeunesse ?» Je me rappelle que j'ai couché avec elle le jour de la démission de Mac Mahon. Je crois que vous ferez bien de ne pas le lui rappeler. Elle est maintenant Madame Swann, la femme d'un monsieur du jockey, ami du prince de Galles. Elle est du reste encore superbe. Oui, mais si vous l'aviez connue à ce moment-là, ce qu'elle était jolie. Elle habitait un petit hôtel très étrange avec des chinoiseries. Je me rappelle que nous étions embêtés par le bruit des crieurs de journaux, elle a fini par me faire lever. Sans entendre les réflexions, je percevais autour d'elle le murmure indistinct de la célébrité. Mon cœur battait d'impatience quand je pensais qu'il allait se passer un instant encore, avant que tous ces gens, au milieu desquels je remarquais avec désolation que n'était pas un banquier mulâtre par lequel je me sentais méprisé, vissent le jeune homme inconnu auquel il ne prêtait aucune attention, saluer, sans la connaître à vrai dire, mais je m'y croyais autorisé parce que mes parents connaissaient son mari et que j'étais le camarade de sa fille, cette femme dont la réputation de beauté, d'inconduite et d'élégance était universelle. Mais déjà j'étais tout près de Madame Swann, alors je lui tirai un si grand coup de chapeau, si étendue, si prolongée, qu'elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Des gens riaient. Quant à elle, elle ne m'avait jamais vu avec Gilberte, elle ne savait pas mon nom, mais j'étais pour elle comme un des gardes du bois ou le batelier ou les canards du lac à qui elle jetait du pain, un des personnages secondaires, familiers, anonymes, aussi dénués de caractères individuels qu'un emploi de théâtre, de ses promenades au bois. Certains jours où je ne l'avais pas vue, à l'aide des acacias, il m'arrivait de la rencontrer dans l'allée de la reine Marguerite, où vont les femmes qui cherchent à être seules, ou à avoir l'air de chercher à l'être. Elle ne le restait pas longtemps. Bientôt rejointe par quelque ami, souvent coiffé d'un tube gris, que je ne connaissais pas, et qui causait longuement avec elle, tandis que leurs deux voitures suivaient. Cette complexité du bois de Boulogne qui en fait un lieu factice, et dans le sens zoologique ou mythologique du mot un jardin, je l'ai retrouvé cette année comme je le traversais pour aller à Trianon, un des premiers matins de ce mois de novembre où, à Paris, dans les maisons, La proximité et la privation du spectacle de l'automne, qui s'achève si vite sans qu'on y assiste, donnent une nostalgie, une véritable fièvre des feuilles mortes, qui peut aller jusqu'à empêcher de dormir. Dans ma chambre fermée, elle s'interposait depuis un mois, évoquée par mon désir de les voir, entre ma pensée et n'importe quel objet auquel je m'appliquais, et tourbillonnait comme cet âge jaune qui parfois, quoique nous regardions, danse devant nos yeux. Et ce matin-là, n'entendant plus la pluie tomber comme les jours précédents, voyant le beau temps sourire au coin des rideaux fermés comme au coin d'une bouche close, qui laisse échapper le secret de son bonheur, j'avais senti que ces feuilles jaunes, je pourrais les regarder traversées par la lumière dans leur suprême beauté. Et ne pouvant pas davantage me tenir d'aller voir des arbres qu'autrefois, quand le vent soufflait trop fort dans ma cheminée, de partir pour le bord de la mer, j'étais sorti pour aller à Trianon en passant par le bois de Boulogne. C'était l'heure et c'était la saison où le bois semble peut-être le plus multiple, non seulement parce qu'il est plus subdivisé, mais encore parce qu'il l'est autrement. Même dans les parties découvertes où l'on embrasse un grand espace, çà et là, en face des sombres masses lointaines des arbres qui n'avaient pas de feuilles ou qui avaient encore leurs feuilles de l'été, un double rang de marronniers orangés semblait, comme dans un tableau à peine commencé, avoir seul encore été peint par le décorateur qui n'aurait pas mis de couleur sur le reste, et tendait son allée en pleine lumière pour la promenade épisodique de personnages qui ne seraient ajoutés que plus tard. Plus loin, là où toutes leurs feuilles vertes couvraient les arbres, un seul, petit, trapu, étêté et têtu, secouait au vent une vilaine chevelure rouge. Ailleurs encore, c'était le premier réveil de ce mois de mai des feuilles, et celle d'un ampélopsis merveilleux et souriant comme une épine rose de l'hiver, depuis le matin même, était tout en fleurs. Et le bois avait l'aspect provisoire et factice d'une pépinière ou d'un parc, où soit dans un intérêt botanique, soit pour la préparation d'une fête, on vient d'installer au milieu des arbres de sorte commune, qui n'ont pas encore été déplantés, deux ou trois espèces précieuses, au feuillage fantastique, et qui semblent autour d'eux réserver du vide, donner de l'air, faire de la clarté. Ainsi, c'était la saison où le bois de Boulogne trahit le plus d'essences diverses et juxtapose le plus de parties distinctes en un assemblage composite. Et c'était aussi l'heure. Dans les endroits où les arbres gardaient encore leurs feuilles, ils semblaient subir une altération de leur matière à partir du point où ils étaient touchés par la lumière du soleil. Presque horizontale le matin, comme elle le redeviendrait quelques heures plus tard, au moment où, dans le crépuscule commençant, elle s'allume comme une lampe, projette à distance sur le feuillage un reflet artificiel et chaud, et fait flamber les suprêmes feuilles d'un arbre qui reste le candélabre incombustible éterne de son faîte incendié. Ici, elle épaississait comme des briques, et comme une jaune maçonnerie persane à dessin bleu, cimentait grossièrement contre le ciel les feuilles des marronniers. Là, au contraire, les détachait de lui, vers qui elles crispaient leurs doigts d'or. À mi-hauteur d'un arbre habillé de vignes vierges, elle greffait et faisait épanouir, impossible à discerner nettement dans l'éblouissement, un immense bouquet comme de fleurs rouges, peut-être une variété d'œillets. Les différentes parties du bois, mieux confondues l'été dans l'épaisseur et la monotonie des verdures, se trouvaient dégagées. Des espaces plus éclaircis laissaient voir l'entrée de presque toutes, ou bien un feuillage somptueux la désignait comme une oriflamme. On distinguait, comme sur une carte en couleur, Armenonville, le pré Catelan, Madrid, le champ de course, les bords du lac. Par moments apparaissaient quelques constructions inutiles, une fausse grotte, un moulin à qui les arbres en s'écartant faisaient place, ou qu'une pelouse portait en avant sur sa moelleuse plateforme. On sentait que le bois n'était pas qu'un bois, qu'il répondait à une destination étrangère à la vie de ces arbres. L'exaltation que j'éprouvais n'était pas causée que par l'admiration de l'automne, mais par un désir. Grande source d'une joie que l'âme ressent d'abord sans en reconnaître la cause, sans comprendre que rien au dehors ne la motive. Ainsi regardais-je les arbres avec une tendresse insatisfaite qui les dépassait et se portait à mon insu vers ce chef-d'œuvre des belles promeneuses qu'ils enferment chaque jour pendant quelques heures. J'allais vers l'allée des acacias. Je traversais des futaies où la lumière du matin qui leur imposait des divisions nouvelles émondait les arbres, mariait ensemble les tiges diverses et composait des bouquets. Elle attirait adroitement à elle deux arbres. Cédant du ciseau puissant, du rayon et de l'ombre, elle retranchait à chacun une moitié de son tronc et de ses branches, et tressant ensemble les deux moitiés qui restaient, en faisait soit un seul pilier d'ombre, que délimitait l'ensoleillement d'alentour, soit un seul fantôme de clarté, dont un réseau d'ombre noire cernait le factice et tremblant contour. Quand un rayon de soleil dorait les plus hautes branches, elles semblaient, trempées d'une humidité étincelante, émerger seules de l'atmosphère liquide et couleur d'émeraude, où la futaie tout entière était plongée, comme sous la mer. Car les arbres continuaient à vivre de leur vie propre. Et quand ils n'avaient plus de feuilles, elles brillaient mieux sur le fourreau de velours vert qui enveloppait leur tronc, et dans l'émail blanc des sphères de gui qui étaient semées au faîte des peupliers, rondes comme le soleil et la lune dans la création de Michel-Ange. Mais forcés depuis tant d'années par une sorte de greffe à vivre en commun avec la femme, ils m'évoquaient la dryade, la belle mondaine rapide et colorée qu'au passage ils couvrent de leurs branches, et oblige à ressentir comme eux la puissance de la saison. Il me rappelait le temps heureux de ma croyante jeunesse quand je venais avidement au lieu où des chefs-d'œuvre d'élégance féminine se réaliseraient pour quelques instants entre les feuillages inconscients et complices. Mais la beauté que faisaient désirer les sapins et les acacias du bois de Boulogne, plus troublant en cela que les marronniers et les lilas de Trianon que j'allais voir, n'était pas fixé en dehors de moi dans les souvenirs d'une époque historique, dans des œuvres d'art, dans un petit temple à l'amour au pied duquel s'amoncellent les feuilles palmées d'or. Je rejoignis les bords du lac, j'allai jusqu'au tir aux pigeons. L'idée de perfection que je portais en moi, je l'avais prêté alors à la hauteur d'une Victoria, à la maigreur de ses chevaux furieux et légers comme des guêpes, les yeux injectés de sang comme les cruels chevaux de Diomède, et que maintenant, pris d'un désir de revoir ce que j'avais aimé aussi ardent que celui qui me poussait bien des années auparavant dans ces mêmes chemins, je voulais avoir de nouveau sous les yeux, au moment où l'énorme cocher de Madame Swann, surveillé par un petit groom gros comme le poing et aussi enfantin que Saint-Georges, essayait de maîtriser leurs ailes d'acier qui se débattaient, effarouchées et palpitantes. Hélas, il n'y avait plus que des automobiles conduites par des mécaniciens moustachus, qu'accompagnaient de grands valets de pied. Je voulais tenir sous les yeux de mon corps pour savoir s'ils étaient aussi charmants que les voyaient les yeux de ma mémoire, de petits chapeaux de femme, si bas qu'ils semblaient une simple couronne. Tous maintenant étaient immenses, couverts de fruits et de fleurs et d'oiseaux variés. Au lieu des belles robes dans lesquelles Madame Swann avait l'air d'une reine, des tuniques gréco-saxonnes, relevés avec les plis des tanagras et quelquefois dans le style du directoire, des chiffons Liberty semés de fleurs comme un papier peint. Sur la tête des messieurs qui auraient pu se promener avec Madame Swann dans l'allée de la reine Marguerite, je ne trouvais pas le chapeau gris d'autrefois, ni même un autre. Il sortait nu-tête. Et toutes ces parties nouvelles du spectacle, je n'avais plus de croyance à y introduire pour leur donner la consistance, l'unité, l'existence. Elles passaient éparses devant moi, au hasard, sans vérité, ne contenant en elles aucune beauté que mes yeux eussent pu essayer comme autrefois de composer. C'étaient des femmes quelconques, en l'élégance desquelles je n'avais aucune foi, et dont les toilettes me semblaient sans importance. Mais quand disparaît une croyance, il lui survit, et de plus en plus vivace, pour masquer le manque de la puissance que nous avons perdue de donner de la réalité à des choses nouvelles, un attachement fétichiste aux anciennes qu'elle avait animées, comme si c'était en elle et non en nous que le divin résidait. Et si notre incrédulité actuelle avait une cause contingente, la mort des dieux. Quelle horreur, me disais-je. Peut-on trouver ces automobiles élégantes comme étaient les anciens attelages? Je suis sans doute déjà trop vieux, mais je ne suis pas fait pour un monde où les femmes s'entravent dans des robes qui ne sont pas même en étoffe. À quoi bon venir sous ces arbres si rien n'est plus de ce qui s'assemblait sous ces délicats feuillages rougissants? Si la vulgarité et la folie ont remplacé ce qu'ils encadraient d'esquis. Quelle horreur! Ma consolation, c'est de penser aux femmes que j'ai connues, aujourd'hui qu'il n'y a plus d'élégance. Mais comment des gens qui contemplent ces horribles créatures sous leur chapeau couvert d'une volière ou d'un potager pourraient-ils même sentir ce qu'il y avait de charmant à voir Madame Swann, coiffée d'une simple capote mauve ou d'un petit chapeau que dépassait une seule fleur d'iris toute droite? Aurais-je même pu leur faire comprendre l'émotion que j'éprouvais par les matins d'hiver à rencontrer Madame Swann à pied, en paletot de loutre, coiffée d'un simple béret que dépassaient deux couteaux de plume de perdrix, mais autour de laquelle la tiédeur factice de son appartement était évoquée rien que par le bouquet de violettes qui s'écrasait à son corsage, et dont le fleurissement vivant et bleu en face du ciel gris, de l'air glacé, des arbres aux branches nues, avait le même charme de ne prendre la saison et le temps que comme un cadre, et de vivre dans une atmosphère humaine, dans l'atmosphère de cette femme. Qu'avait dans les vases et les jardinières de son salon, près du feu allumé, devant le canapé de soie, les fleurs qui regardaient par la fenêtre close la neige tombée. D'ailleurs, il ne m'eût pas suffi que les toilettes fussent les mêmes qu'en ces années-là. À cause de la solidarité qu'ont entre elles les différentes parties d'un souvenir et que notre mémoire maintient équilibrée dans un assemblage où il ne nous est pas permis de rien distraire ni refuser, j'aurais voulu pouvoir aller finir la journée chez une de ces femmes, devant une tasse de thé dans un appartement aux murs peints de couleurs sombres, comme était encore celui de Madame Swann, l'année d'après celle où se termine la première partie de ce récit, et où luiraient les feux orangés, la rouge combustion, la flamme rose et blanche des chrysanthèmes dans le crépuscule de novembre, pendant des instants pareils à ceux où, comme on le verra plus tard, je n'avais pas su découvrir les plaisirs que je désirais. Mais maintenant, même ne me conduisant à rien, ces instants me semblaient avoir eu eux-mêmes assez de charme. Je voulais les retrouver tels que je me les rappelais. Hélas, il n'y avait plus que des appartements Louis XVI, tout blancs, émaillés d'hortensias bleus. D'ailleurs, on ne revenait plus à Paris que très tard. Madame Swann m'eût répondu d'un château qu'elle ne rentrerait qu'en février, bien après le temps des chrysanthèmes, si je lui avais demandé de reconstituer pour moi les éléments de ce souvenir que je sentais attaché à une année lointaine, à un millésime vers lequel il ne m'était pas permis de remonter, les éléments de ce désir devenu lui-même inaccessible comme le plaisir qu'il avait jadis vainement poursuivi. Et il m'eût fallu aussi que ce fussent les mêmes femmes, celles dont la toilette m'intéressait, parce que, au temps où je croyais encore, mon imagination les avait individualisées et les avait pourvues d'une légende. Hélas, dans l'avenue des Acacias, l'allée de Myrte, j'en revus quelques-unes, vieilles et qui n'étaient plus que les ombres terribles de ce qu'elles avaient été. Errant, cherchant désespérément on ne sait quoi dans les bosquets virgiliens. Elles avaient fui depuis longtemps que j'étais encore à interroger vainement les chemins désertés. Le soleil s'était caché, la nature recommençait à régner sur le bois d'où s'était envolée l'idée qu'il était le jardin élyséen de la femme. Au-dessus du moulin factice, le vrai ciel était gris. Le vent ridait le grand lac de petites vaguelettes, comme un lac. De gros oiseaux parcouraient rapidement le bois, comme un bois, et poussant des cris aigus se posaient l'un après l'autre sur les grands chênes, qui, sous leur couronne druidique et avec une majesté dodonéenne, semblaient proclamer le vide inhumain de la forêt désaffectée, et m'aider à mieux comprendre la contradiction que c'est de chercher dans la réalité les tableaux de la mémoire, auxquels manquerait toujours le charme qui leur vient de la mémoire même, et de n'être pas perçu par les sens. La réalité que j'avais connue n'existait plus. Il suffisait que Madame Swann n'arrivât pas toute pareille au même moment pour que l'avenue fût autre. Les lieux que nous avons connus n'appartiennent pas qu'au monde de l'espace où nous les situons pour plus de facilité. Ils n'étaient qu'une mince tranche au milieu d'impressions contiguës qui formaient notre vie d'alors. Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant. Et les maisons, les routes, les avenues sont fugitives. Hélas, comme les années.